Bonjour Fabrice Drouel. Oui, une révolte qui commençait il y a exactement 20 ans, le 7 décembre 1987, l'Intifada. Ce n'est pas du terrorisme, ce ne sont pas des désordres, ce n'est pas de la subversion et ce ne sont pas des émeutes, c'est un peuple qui se lève. Itzhar Chmielanski, écrivain israélien. Mille ans d'histoire. En cette fin d'année 1987, dans les territoires occupés depuis 20 ans par l'armée israélienne, plus personne ne croyait au combat mené depuis des années par les Palestiniens. Victorieuse à 4 reprises des armées arabes, l'armée israélienne était plus forte que jamais et l'OLP de Yasser Arafat était depuis 5 ans en exil à Tunis. Le combat des Palestiniens semblait définitivement perdu, jusqu'à ce que le 7 décembre 1987, un banal accident de la circulation provoque une révolte comme l'armée israélienne n'en avait encore jamais vu. Ce jour-là, dans la bande de Gaza, une collision entre un camion de l'armée et un taxi provoquait la mort de 2 Palestiniens et des manifestations qui, en quelques jours, allaient s'étendre dans tous les territoires occupés. C'était le début du soulèvement, en arabe Intifada, qui en 6 ans allait permettre ce que ni les guerres ni le terrorisme n'avaient rendu possible. La poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat à Washington, le 13 décembre 1993. Radio-Canada, Jean-Michel Leprince.
Yasser Arafat, le proscrit, celui qu'on appelle terroriste, entrant à la Maison Blanche en uniforme d'apparat, sans pistolet. Une journée exceptionnelle, pleine de premières, impensables il y a encore quelques jours. Yasser Arafat ressortant de la Maison Blanche aux côtés du président américain. Avec de l'autre côté du président, son pire ennemi, le premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin. Puis cette poignée de main tant attendue que Yasser Arafat est allé chercher, avec l'aide du président Clinton, chez un Yitzhak Rabin visiblement réticent, résigné. Après la signature de l'accord historique entre Israël et l'OLP.
We who have fought against you. The Palestinians.
À vous, les Palestiniens que nous avons combattus, nous vous disons haut et clair, assez de sang et de larmes, assez.
Of blood and tears. Enough.
Together, today, with all our hearts and all our souls, we bid them shalom, salam, peace.
Alain Grèche, bonjour.
Bonjour.
C'était Yitzhak Rabin et Bill Clinton le 13 septembre 1993 et cette poignée de main historique entre Yasser Arafat et le premier ministre israélien, tout le monde s'en souvient. Un événement impensable 6 ans plus tôt lorsque s'est déclenchée la révolte dont nous allons parler et qui l'a rendue possible, l'Intifada, qui commençait donc il y a tout juste 20 ans, en décembre 1987, et au moment, vous le rappelez dans votre livre, votre dernier livre, Israël-Palestine, Vérité sur un conflit, vous le rappelez, c'était le moment où vraiment le mouvement palestinien était absolument au creux de la vague.
Oui, comme vous l'avez dit, en 1982, l'OLP avait été expulsée de Beyrouth à la suite de la guerre du Liban. Elle s'était installée à Tunis, c'est-à-dire très loin des territoires occupés. Elle était divisée, puisqu'il y avait eu une scission de l'aile radicale, du Front populaire, du Front démocratique, qui reprochait à Arafat un certain nombre de ses initiatives diplomatiques. Et puis, il y avait un signe, d'ailleurs, qui a été, à mon avis, un des éléments déclencheurs pour les jeunes de l'Intifada. C'est en novembre 87, donc quelques semaines avant le déclenchement de l'Intifada, il se tient un sommet arabe à Amman, en Jordanie, c'est-à-dire à quelques kilomètres de la Cisjordanie, des territoires occupés. La population regarde la retransmission à la télévision de ce sommet, et le mot Palestine n'est pratiquement pas prononcé. Et il y a une prise de conscience que c'est où on fait quelque chose, nous les Palestiniens, ou bien c'est la fin.
Mais qui sont lâchés, au fond, par les pays arabes.
Ils sont lâchés par les pays arabes, comme ils l'ont été assez souvent. Mais ils sont, je dirais, c'est plus que lâchés, là, c'est oublié. C'est penser que, finalement, ce n'est plus un problème. C'est plus un problème pour Israël. C'est-à-dire, on contrôle la Cisjordanie. Et ce que l'Intifada va montrer, c'est qu'en fait, ce contrôle n'est pas possible sans une implication massive de l'armée israélienne et sans un prix massif pour la société israélienne aussi.
Oui, et puis alors une société israélienne, et puis une colonisation aussi extrêmement humiliante, bien sûr, et qui se poursuit. C'est à l'époque où c'est Yitzhak Shamir qui est au pouvoir, et les territoires occupés sont de plus en plus colonisés, en fait, à ce moment-là.
C'est un des éléments qui fait de cette occupation de la Cisjordanie une occupation à part dans l'histoire des occupations. Des occupations de territoires étrangers, il y en a eu. Mais là, en plus de l'occupation, nous avons l'installation d'un certain de colons juifs à Jérusalem-Est et en Cisjordanie en masse, c'est-à-dire des centaines de milliers de personnes. Et ça veut dire tous les jours confiscation de terres, construction de nouveaux logements, construction de routes interdites aux Palestiniens. Donc l'impression que petit à petit, les Palestiniens ont d'être enserrés, d'être complètement asphyxiés.
Bref, c'est un peu une poudrière lorsque se produit ce qui va déclencher l'intifada. C'était le 7 décembre 87, donc dans la bande de Gaza. Il y a un accident de voiture et puis une collision entre un camion, je crois, israélien, et une voiture dans laquelle sont tués deux Palestiniens. Des manifestations qui dégénèrent alors en affrontement entre les Palestiniens et l'armée israélienne et qui, en 5 jours, s'étendait à tous les territoires occupés. France Inter, Henri Charpentier et Claude Mazot, le 13 décembre 1987.
De violents affrontements ont eu lieu ce matin pour la 5e journée consécutive dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza. Militaires israéliens et manifestants palestiniens se sont heurtés. Il y aurait 49 tués ou blessés, chiffre non confirmé par Israël. Ces incidents ont des répercussions sur la vie économique de la région et apparemment le malaise s'étend.
D'après la radio militaire, des adultes ont pour la première fois été vus dressant des barricades aux côtés des jeunes Palestiniens. Ainsi, pour la 5e journée consécutive, la tension ne baisse pas et certains se demandent dans les journaux si les désordres actuels ne peuvent pas être qualifiés d'insurrection.
Et Claude Mazot avait raison, c'était une insurrection. Je ne sais pas si on employait déjà le mot intifada, qui veut dire soulèvement, mais c'était ça, en fait, qui se produit avec, on l'entend, des jeunes. Certes, ils sont rejoints par quelques adultes, mais ça commence par des jeunes. Qu'est-ce que ce soulèvement, on y est plus souvent habitué aujourd'hui, avait de nouveau par rapport au combat mené par les Palestiniens avant? Vous en avez été le témoin, Alain Grech.
Écoutez, ce qui m'a frappé en allant au début de l'année 88 dans les territoires occupés, que je connaissais assez bien, c'est la place des jeunes. C'est quand même, vous savez, la société palestinienne est une société très traditionnelle où les personnes âgées jouent un rôle très important. Il y avait des notables qui étaient d'ailleurs proches de l'OLP, qui menaient un combat qui était le leur, mais qui était pas celui des jeunes. Et là, brusquement, on voit émerger une génération de jeunes qui a 20 ans. Donc 20 ans, c'est-à-dire qu'il est né en 67. Donc il n'a connu rien d'autre que l'occupation. Et avec une espèce de joie, je dirais, en tous les cas pour la première année, de participer à ce mouvement, l'impression qu'ils sont en train de changer l'histoire et qu'il y a une... ça m'avait vraiment frappé à l'époque, une espèce de fierté retrouvée après avoir subi l'occupation et après avoir vu leurs parents subir l'occupation sans arriver à l'ébranler.
Est-ce que ce soulèvement était spontané?
Oui, il était spontané. Je veux dire, après, on a dit, ça a été... Vous savez, c'est ce genre de choses, c'est impossible à une organisation de le programmer. C'est comme si on prenait mai 68 et on dit ça a été préparé ou coordonné. Non, il y a ensuite, avec l'intifada, l'OLP qui va s'impliquer, on va y revenir, mais ça a été spontané. Mais spontané dans le sens, il y a quand même des organisations palestiniennes sur place. C'est-à-dire, il y a des forces politiques, le Fatah, le Front populaire, le Parti communiste, le Front démocratique, qui sont organisés et qui, petit à petit, vont s'organiser dans des comités de l'intifada qui vont être d'une efficacité tout à fait étonnante. Mais donc, on ne peut pas penser que ça a été préparé à partir de Tunis. Ensuite, que l'OLP, à partir de Tunis, est tenté et utiliser ça dans les négociations, c'est évident. Mais ce type de mouvement, la première comme la seconde intifada, d'ailleurs, personne ne peut les programmer.
Mais c'était, bon, on l'appelait ça aussi la révolte des pierres. Il n'y avait pas d'armes, en fait. C'était peut-être ça la nouveauté aussi ce combat.
Tout à fait.
C'est que du côté palestinien, il n'y avait pas d'armes.
Il faut dire que dans les territoires occupés, il y a eu très peu d'armes, en général. C'est-à-dire les actions de l'OLP armées, c'était en Jordanie, c'était au Liban. Il y a eu une période juste après la guerre de 67, entre 67 et 69-70, une tentative du Fatah et de l'OLP à partir de la Jordanie de mener des actions armées. Mais ni la configuration géographique ni sociale ne permettait vraiment le développement d'une lutte armée à l'intérieur des territoires. Mais il y a aussi une décision de l'OLP de ne pas utiliser l'arme, de ne pas utiliser l'arme du terrorisme.
Alors cette décision, elle est prise de Tunis en réalité, par quelqu'un qui est le bras droit en fait de Yasser Arafat, c'est Abu Jihad, hein, qui était au fond celui qui était chargé d'être en liaison avec les Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire des territoires occupés.
Oui, c'est un homme très important et dont la disparition va être, je pense, très négative pour l'OLP, parce que c'est le seul dirigeant de l'OLP qui, à part Arafat, qui a une vraie légitimité, qui a une vraie base sociale, qui a un vrai appareil, qui peut d'une certaine manière faire contrepoids à Arafat, même si les deux sont très liés, ont mené la même stratégie. Et cet homme va, effectivement, à partir de l'intifada et à partir de ses réseaux, essayer d'organiser le rapport, si on peut dire, qui est pas toujours simple, entre Tunis et les territoires occupés. Vous savez, c'est comme toute résistance où il y a l'intérieur et l'extérieur. On sait toujours qu'il y a des tensions, mais Abu Jihad va réussir, je crois, en tous les cas, dans la période où il reste vivant, à les gérer assez bien.
Oui, gérer donc cette intifada qui semble dérouter le Premier ministre israélien, Itzhak Shamir.
Une nouvelle forme de guerre est menée contre nous. Une tentative de détruire notre existence par des manifestations violentes. Abu Jihad. Face aux violences israéliennes, ils n'ont que leurs mains ou leurs pierres. Dans tous les territoires occupés, toutes les villes, les villages et les camps, personne n'a utilisé une arme ou une grenade.
Flambée de violence aujourd'hui dans les territoires occupés par Israël. L'assassinat ce matin à Tunis d'Abu Jihad, le commandant en chef adjoint des forces palestiniennes, le numéro 2 du Fatah, a servi de détonateur dans la région de Gaza. Les affrontements avec l'armée israélienne ont été très durs. 13 Palestiniens ont été tués en l'espace de quelques heures.
Et c'était en avril 1988, quelques semaines après le déclenchement de l'intifada, l'assassinat d'Abu Jihad, donc qui a forcément changé pas mal de choses. Abu Jihad qu'on a entendu juste avant, c'était quelques jours avant qu'il soit assassiné par le Mossad. En fait, l'attitude du gouvernement israélien, c'est dans un premier temps une très grande fermeté, Alain Grèche.
C'est une très grande fermeté et avec une violence de la répression, je veux dire, compte tenu du fait que c'est des gens qui n'utilisent que les Palestiniens n'utilisent pas des armes, qui est quand même assez stupéfiante, puisque la première année, il va y avoir 400 Palestiniens tués, et le nombre de prisonniers palestiniens va passer de 5 000 à la veille de l'intifada à près de 10 000. C'est-à-dire, si on prend à l'échelle de la population, ça voudrait dire en France des centaines de milliers de gens en prison. Donc il y a une fermeté contre les Palestiniens. Il y a l'idée que, explique Shamir, que c'est une guerre contre notre existence, alors que, justement, un des aspects nouveaux de l'intifada, c'est qu'elle se passe dans les territoires occupés. Il n'y a pas d'action en Israël même, comme il va y en avoir dans la seconde intifada. C'est vraiment quelque chose qui est une affirmation de l'idée que la Cisjordanie et Gaza sont des territoires palestiniens et qu'ils veulent leur indépendance. Donc c'est ça qui est important, mais réellement, je crois que le gouvernement israélien est complètement déstabilisé parce qu'on peut croire en novembre 87 que finalement l'occupation peut durer éternellement sans beaucoup, beaucoup de problèmes.
Et là, donc, cette agitation, une vie quotidienne, ça a duré quand même 6 ans, cette intifada. Enfin, surtout, les premières années ont été dures. Et alors, organisée en fait de l'extérieur par les représentants de l'OLP, il y a une vie. Alors, ils ordonnent le boycott des produits israéliens. Je crois qu'on lève même clandestinement, évidemment, un impôt pour pouvoir aider les familles des jeunes ou des manifestants qui sont arrêtés. Pour également les éduquer, parce qu'une des réactions des Israéliens était de fermer les écoles ou les universités, ce qui mettait en plus les étudiants dans la rue.
Ouais. Il y a une organisation qui est d'abord une organisation interne. Et les comités de l'intifada, c'est d'abord des militants internes et qui connaissent leur société et qui savent quel mot d'ordre à adopter. Et qui parfois vont se heurter à Tunis. Parce que Tunis a des fois des mots d'ordre très extrémistes, comme fermeture des commerces de manière illimitée, ce qui tue la vie économique. Mais il y a, en tous les cas, la première année, c'est vraiment, encore une fois, il y a une espèce d'atmosphère de joie et de fierté retrouvée qui fait qu'on organise la vie économique, on organise le boycott des produits israéliens, en tous les cas, ce qu'on peut boycotter, parce qu'il y a des choses qui sont vitales. Et puis, une chose qui est inimaginable, c'est que Évidemment, dans la société palestinienne, il y a des collaborateurs, des gens qui ont collaboré avec les services de renseignement israéliens. Et on organise des cérémonies où ces collaborateurs viennent se repentir et sont graciés. Ce qui vraiment, encore une fois, indique une espèce de... Comment dire ? C'est vraiment une révolution dans la joie et dans l'espoir que ça va déboucher sur quelque chose.
Et une joie évidemment redoublée lorsque, à Alger, Yasser Arafat, un an après le déclenchement de l'intifada, eh bien, annonce une décision importante. France Inter, Luc Lemonnier, le 15 novembre 1988.
La création d'un État, c'est si peu courant que c'est toujours un événement. Un État palestinien est né cette nuit à Alger. Inutile de dire que cette nouvelle, dans des territoires occupés, baignés d'intifada et de violence depuis un an, que cette nouvelle a été accueillie avec des débordements de joie peu communs côté palestinien et avec une grande méfiance côté hébreu.
Au nom du peuple palestinien, je déclare la naissance de l'État de Palestine sur la terre palestinienne, avec Jérusalem, Al-Quds comme capitale.
Et c'était Férouz, Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem, une chanson très connue parmi les Palestiniens. Et évidemment, après cette déclaration, on entendait sûrement partout Alain Grech dans les territoires occupés, parce que cette proclamation d'indépendance, elle est assez théorique. Elle est faite à Alger, à une réunion de l'OLP, et elle n'est pas encore reconnue. Mais elle a provoqué un enthousiasme considérable, évidemment. Est-ce que c'est une victoire de l'intifada?
Oui, c'est une victoire de l'intifada. D'abord, l'OLP qui se réunit à Alger pour proclamer l'indépendance de la Palestine et l'État palestinien, elle est réunifiée. C'est toutes les factions qui s'étaient fâchées avec Arafat reviennent ensemble. Donc c'est quand même une décision unanime et c'est important. Et deuxièmement, elle ouvre la porte à une vraie solution diplomatique, puisque pour la première fois, l'OLP, dans un de ses congrès, fait référence explicitement à la résolution des Nations Unies de 1947 de partager la Palestine en deux États, en disant il y a eu un État d'Israël qui a été créé et nous allons créer un État palestinien. Et quelques jours plus tard, il y a une déclaration d'Arafat dans laquelle il renonce au terrorisme explicitement, une déclaration qui a été écrite par le représentant américain et qui va permettre l'ouverture de négociations entre l'OLP en tant que telle et Washington. Donc tout ça est vraiment le résultat de l'intifada.
Washington d'ailleurs qui est tout à fait disposé à justement permettre des négociations, à trouver une solution au conflit, alors que le Premier ministre israélien, qui est toujours Yitzhak Shamir, n'en veut parler à aucun prix.
Oui, je dirais, Washington se rallie à ce qui a été la position de Paris depuis 10 ans, c'est-à-dire que l'OLP représente les Palestiniens et qu'il n'y a pas d'autre solution que la création d'une patrie palestinienne. Mais à partir de ce moment-là, même si ça va prendre du temps, parce qu'on est sous la période Reagan, puis il va y avoir la guerre de l'Irak, il va y avoir des contradictions, mais petit à petit, l'idée que l'OLP est un interlocuteur est acceptée par les Américains, alors qu'il n'est pas accepté par la droite israélienne. En revanche, pour la première fois, le Parti travailliste dit qu'à la suite des déclarations de l'OLP, il peut négocier avec l'OLP puisque l'OLP finalement accepte le principe du partage.
Et tout ça va rendre possible des négociations de paix justement proposées par le président des États-Unis lui-même, George Bush, le père, hein, pas l'actuel président, mais le père de l'actuel président, le 6 mars 1991.
We must do all that we can to close the gap.
Nous devons tout faire pour combler le fossé entre Israël et les États arabes et entre Israéliens et Palestiniens. Rien ne peut remplacer la diplomatie. L'heure est venue de mettre fin au conflit israélo-arabe.
France Inter. Tous les regards, tous les espoirs se sont portés ce matin à 10h30 vers Madrid où s'est ouverte la conférence de paix sur le Proche-Orient. C'est la première fois qu'Israéliens et Palestiniens acceptent le dialogue, acceptent de se réunir. Pour une fois, on peut parler de rencontre historique, le mot n'est pas trop fort.
Oui, alors dans son discours, George Bush a reconnu que cette conférence qui commence sera longue. Il faut que les parties apprennent à se parler, a-t-il dit. Mais le président Bush s'est bien gardé d'utiliser utiliser la formule « la paix en échange des territoires », ajoutant un peu plus tard, à l'adresse de toutes les délégations, que des compromis territoriaux seront nécessaires.
Alors, il n'est pas sorti grand-chose, vous le rappelez, Alain Grèche, de cette conférence de Madrid, sinon quand même que pour la première fois, on voyait des Palestiniens et des Israéliens parler ensemble.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il en est sorti quelque chose au niveau politique, parce que je pense que c'est la conférence d'Oslo qui va permettre la défaite de la droite israélienne et la victoire de Rabin, et qui va permettre...
Rabin qui, lui, veut le processus de paix.
Oui, qui veut le processus de paix. Et d'un autre côté, ça va... vous savez qu'à Madrid, ce n'est pas l'OLP qui est invité, c'est une délégation des Palestiniens des territoires occupés. Les Américains, comme Israël, pensent pouvoir... jouer sur les contradictions entre les deux, mais il n'y aura aucune contradiction. Donc tout ça va forcer aux négociations secrètes d'Oslo et à l'accord ensuite à Oslo.
Alors, négociations secrètes qui débouchent effectivement sur ces accords d'Oslo en 1993, qui seront concrétisés à Washington par cette poignée de main. Que contenaient-ils, ces accords d'Oslo ?
Écoutez, d'abord, ils reconnaissaient... c'est-à-dire, ce qui était important, c'est que l'OLP et Israël acceptaient de négocier. Il y avait beaucoup de flou, malheureusement, dans le texte lui-même, c'est-à-dire une idée qu'on allait donner au territoire palestinien une autonomie pendant 5 ans, et toutes les grandes questions, c'est-à-dire celles des frontières, des colonies, étaient repoussées pour dans 5 ans. Mais ça pouvait créer l'idée des Palestiniens, je pense de Rabin, des Américains, c'est qu'il allait se créer une espèce de climat de confiance qui allait petit à petit permettre de régler les problèmes... Les problèmes en suspens et aboutir à une paix entre Israéliens et Palestiniens.
Le rôle de Rabin, du successeur de Shamir, justement, a été déterminant. C'est curieux parce que c'est Rabin qui était chargé de la répression de l'intifada au début.
Tout à fait. Et je crois que c'est le fait que Rabin était plutôt considéré comme un dur par l'opinion israélienne, comme un militaire qui a participé à la guerre de 67, qui a donc joué un rôle militaire important, qui va lui donner la légitimité pour l'opinion israélienne, de ces négociations. Et aussi parce qu'il a compris que, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix sinon la poursuite d'une occupation qui ne peut pas se normaliser.
Accord d'Oslo, donc signé le 9 septembre, et puis plus tard, enfin plutôt conclu le 9 septembre, signé plus tard officiellement, solennellement à Washington le 13 septembre avec cette fameuse poignée de main. Et évidemment, on s'en doute, une joie considérable dans les territoires occupés où la nouvelle est accueillie dans la joie.
Plus que la paix, c'est la fierté d'être enfin reconnu comme peuple que célèbrent les Palestiniens aujourd'hui. Partout dans la petite ville biblique de Jéricho, où Yasser Arafat a choisi de s'installer, d'immenses drapeaux verts, rouges, noirs et blancs, des drapeaux qui sont encore légalement interdits. Voir notre drapeau flotter sur notre pays pour la première fois, nous a dit ce jeune, c'est comme un rêve. Et enfin, on pourra avoir un passeport, ajoute celui-ci, et la citoyenneté palestinienne. Toute la journée, ils ont été des milliers à chanter, à danser et à fêter sous le nez des soldats israéliens qui ne sont jamais intervenus la fin de 26 ans d'occupation militaire.
Et c'était un reportage de Céline Galipo de Radio-Canada qui était donc sur place dans les territoires occupés. Je ne sais pas si vous y étiez à ce moment-là, Alain Grèche.
Non, mais j'ai vu des images qui, quand même, dont il faut se souvenir, c'est des Palestiniens allant offrir des fleurs à des soldats israéliens.
Ce qui ne bougeait pas, on l'a entendu.
Qui détruit une image que les Palestiniens n'ont jamais voulu la paix ou qu'ils ne voulaient pas la paix. On sent à ce moment-là, je veux dire, juste un désir de paix immense. Et encore une fois, c'est des gens qui vivent sous occupation depuis 1967, qui sont devenus beaucoup plus réalistes que ce qu'ils étaient avant et qui veulent une solution et qui veulent leur État.
Y compris chez des Israéliens, beaucoup d'Israéliens donc étaient satisfaits de ces accords d'Oslo. Hein, on évoquait, on l'a entendu dans ce reportage, voilà, voir le drapeau palestinien, c'est comme un rêve, mais ça l'est resté, Alain Grèche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu évidemment l'assassinat de Rabin, 2 ans plus tard, en 1995.
Il y a eu l'assassinat de Rabin. Je pense qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué. Il n'y en a pas eu qu'un. Il y a eu la persistance de la colonisation qui a, je veux dire, créé un très grand malaise chez les Palestiniens. Il y a eu des négociations qui ont traîné. Et il y a eu aussi, malheureusement... l'idée que finalement, il fallait chaque fois qu'on était dans des négociations entre Israéliens et Palestiniens, il fallait faire pression sur la partie la plus faible, c'est-à-dire les Palestiniens, pour obtenir des concessions. Je donne un exemple. Israël devait se retirer de toutes les grandes villes et donc elle se retire de toutes les grandes villes, à l'exception de Hébron. À Hébron, qui est une ville de, je crois, 280 000 habitants, il y a 400 colons extrémistes religieux qui ont été installés au cœur de la ville. Et pour trouver une solution, au lieu de faire évacuer ces colons, ce qui aurait été une chose positive, on va maintenir ces colons et diviser la ville en deux, c'est-à-dire avoir une partie de plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens avec ces colons qui continuent à être sous occupation.
Il y a aussi une responsabilité d'un certain nombre de Palestiniens. Il y a un événement capital qui se produit dès le début de l'intifada. C'est un mouvement extrémiste qui refuse aussi l'idée d'une paix et qui en est largement responsable, qui a fait tourner l'intifada d'ailleurs ensuite à des affrontements armés. C'est le Hamas. Le Hamas, c'est le produit de l'intifada aussi.
Et oui, puisque le Hamas naît en décembre 1987, il naît de l'intifada. Le Hamas, c'est quoi? C'est une création faite par l'Organisation des Frères musulmans, qui est très implantée en Cisjordanie et Gaza, et dont on sait aujourd'hui que pendant toutes les années 80, elle a été encouragée par les services de renseignement israéliens pour faire contrepoids à l'OLP. C'est un cas de figure qu'on retrouve en Égypte, où le gouvernement utilise les Frères musulmans contre les marxistes, etc. Et donc, on va avoir ce mouvement. Mais ce mouvement, il faut bien voir qu'il va prendre de l'importance au fur et à mesure que les accords échouent. C'est-à-dire que lui qui est contre les accords, il peut dire, mais écoutez, les accords ont échoué, c'est notre ligne qui est la bonne. Et je crois qu'il faut bien voir que ce mouvement se nourrit de l'échec des négociations.
Et ça explique tout ça, le fait que, après les accords d'Oslo, il ne s'est rien passé jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, dans le processus de paix. Bon, il faudra encore attendre. Merci en tout cas, Alain Gresh, de nous avoir rappelé cette intifada 20 ans après. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Israël, Palestine, vérité sur un conflit, qui vient d'être publié dans une nouvelle édition réactualisée aux éditions Fayard. À lire également sur l'histoire du Proche-Orient, deux livres dont vous êtes aussi l'auteur, L'Islam, la République et le Monde, et puis avec Dominique Vidal, un livre formidable, Les 100 clés du Proche-Orient, tous deux publiés donc chez Hachette Littérature dans la collection Pluriel. À lire aussi le hors-série daté de novembre-décembre 2007, publié dans Le Monde 2, Proche-Orient, la poudrière, qui consacre un large dossier au conflit israélo-palestinien. Vous avez pu entendre des extraits issus de deux documentaires, Israël et les Arabes, 1948-2005, de Norma Percy et Brian Lapping, en DVD chez Arte Vidéo, et Palestine, histoire d'une terre, de Simone Bitton. Mais tout de suite, 2000 ans d'histoire vous propose de gagner Éphéméris, un livre coédité par France Inter et accompagné d'un CD-ROM pour gagner ce livre. Il suffit de répondre à la question d'aujourd'hui, 6 décembre. Le 6 décembre 1921, l'Irlande fut séparée en deux pays. De combien de comtés était composée l'Irlande du Nord? Réponse A, 4. Réponse B, 5. Réponse C, 6. Pour jouer, envoyez par SMS au 62030 le mot clé histoire, suivi de votre réponse. A pour 4 comtés, B pour 5 comtés ou C pour 6 comtés en Irlande du Nord, le 6 décembre 1921. Vous pouvez, et ça vous coûtera 35 centimes l'envoi, plus le coût d'un SMS. Vous pouvez retrouver cette question et des informations complémentaires sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Renan Mahé et Benoît Massir. Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Hervé Evano. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, William Shakespeare.
Vous avez un projet innovant, envie de créer votre entreprise?
Participez au concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes soutenu par Oseo.